Vous écoutez, on lit pour vous.
Le danger mortel des routes sans trottoir. Un texte de Jeanne Corriveau paru le 13 mars 2025 dans Le Devoir. Au Québec, les morts d'usagers de la route sont en baisse, sauf chez les piétons. Dans de nombreuses municipalités, les trottoirs sont accessoires. Il s'agit pourtant d'un espace qui accorde aux piétons le droit d'exister et de se déplacer en sécurité. Mais le coût lié aux infrastructures piétonnes pèse parfois lourd dans la balance, même si des vies humaines sont en jeu. Le 1er mars 2018, Anaïs Renaud, 11 ans, marche avec ses camarades en bordure de la rue principale à Saint-Flavien pour se rendre à l'école quand sa tête est heurtée par le miroir latéral d'un véhicule de type VUS qui empiète sur l'accotement. Conduite à l'hôpital, Anaïs décède en soirée. Cet accident aurait pu être évité, a conclu la coroner Gayane Kamel, qui s'est penchée sur les causes et les circonstances du décès. La rue principale, qui est dans les faits la route 271 de juridiction provinciale, ne comportait pas de trottoir. L'hiver, l'accotement où circulent les piétons est mal déneigé. À d'autres moments de l'année, il est parfois inondé ou obstrué par une auto stationnée, a constaté la coroner. Comme la famille d'Anaïs habite à moins de 800 mètres de l'école, la fillette n'avait pas droit au transport scolaire. En mars 2020, la coroner avait recommandé la construction d'un trottoir afin de délimiter la zone piétonne de la chaussée. 5 ans plus tard, la rue principale à Saint-Flavien ne comporte toujours pas de trottoir. La ville avait pourtant élaboré un projet visant à construire un trottoir de 1,8 mètre de largeur, mais la facture était salée, près de 1,2 million de dollars. Comme le projet divisait la communauté de 1 600 habitants, l'administration du maire Normand Côté a opté pour un règlement d'emprunt et demander aux citoyens de se prononcer sur le projet par référendum. La municipalité estimait alors qu'il en coûterait 88 $ par année par propriété pendant 25 ans pour éponger la facture. Or, les citoyens ont rejeté le projet dans un vote majoritaire. Le défi du financement. La mère d'Anaïs garde un souvenir amer de cet épisode difficile. En entrevue au Devoir, Jacinthe Latulippe dit se tenir désormais un peu à l'écart du dossier. « Ça a drainé beaucoup d'énergie pour moi. Je suis devenue cynique un peu. » Elle estime que la ville aurait pu procéder aux travaux sans tenir de référendum. « Ça m'a beaucoup désillusionné sur leur véritable volonté d'agir. » Son autre enfant, qui fréquente aujourd'hui l'école primaire, marche pour se rendre à l'école, mais il est accompagné de ses parents et ne passe pas par la rue principale. Depuis le référendum, la table de réflexion sur la sécurité routière de Saint-Flavien s'est penchée sur le dossier et, en mai 2024, a proposé l'aménagement d'une voie multifonctionnelle surélevée pour piétons et cyclistes en bordure de la route. 9 mois plus tard, le dossier semble stagner, la municipalité se disant en attente d'une rencontre avec le ministère des Transports du Québec, MTQ, responsable de cette voie routière. Le maire Normand Côté n'a pas donné suite à nos demandes d'entrevue. La rue principale de Saint-Flavien était autrefois dotée d'un trottoir qui a été démantelé en 2002 de manière à élargir l'accotement. Le financement demeure au cœur du dossier puisque sur une route de juridiction provinciale, les aménagements piétons relèvent des municipalités. Jacinthe Latulippe reproche à la ville et au ministère des Transports de se renvoyer la balle dans ce dossier, l'aménagement promis se faisant toujours attendre. Je vois de beaux discours, mais peu d'action. Il y a vraiment une culture de l'auto. C'est ça qui prime, dit-elle. On le voit davantage, la question des trottoirs et de la marche, en coût économique, mais on ne le voit pas en coût de santé publique et en coût humain. Pourtant, signale Mme Latulippe, la municipalité voisine, Laurier Station, a installé des bollards sur la même route qui traverse le village afin de protéger les piétons et cyclistes dans la foulée du décès d'Anaïs. Parcours du combattant. Même dans les grandes villes, la présence de trottoirs n'est pas systématique. En 2019, la ville de Laval, troisième ville en importance au Québec, avait déterminé que seulement 29% de son réseau routier possédait au moins un trottoir. À titre de comparaison, Montréal estime à 87% la part des rues et des artères disposant d'un ou de deux trottoirs, alors qu'à Longueuil, la proportion est de 64,2%. Laval n'a pas mis ses données à jour, mais assure avoir réalisé divers aménagements pour améliorer la sécurité et la mobilité des piétons. Entre 2020 et fin 2024, quelques 80 km d'aménagements piétonniers ont été ajoutés et des améliorations ont été apportées à 15 km du réseau, qu'il s'agisse de trottoirs, mais aussi de bandes et de pistes pour piétons et cyclistes et de dos d'âne. Être piéton à Laval relève parfois du parcours du combattant. Roch Godard est en mesure de le constater tous les jours. Il habite un immeuble pour personnes de 55 ans et plus à Vimont. Depuis des années, les résidents tentent d'alerter les élus concernant un passage piétonnier traversant le boulevard Saint-Elzéar, peint sur la chaussée. La traverse piétonne n'impressionne guère les automobilistes pressés, d'autant que la pluie et la neige ont vite fait d'effacer la peinture au sol. Une fois cette étape franchie, le piéton n'est pas au bout de ses peines. Le boulevard Saint-Elzéar a un trottoir, mais la marche n'a rien de convivial, selon M. Godard. Ce n'est pas agréable de marcher sur un boulevard. Si tu veux prendre une marche, tu bifurques dans les petites rues résidentielles où il n'y a aucun trottoir. Aux quatre coins du Québec, l'absence de trottoir a un effet dissuasif sur les marcheurs les plus motivés. Joanne Trudeau avait l'habitude de se déplacer à pied ou à vélo dans les différentes villes où elle a vécu, soit Montréal, Chambly et Valleyfield. Il y a 2 ans, elle s'est installée à Saint-Jean-sur-Richelieu et a rapidement déchanté devant la rareté des trottoirs et la présence d'accotements étroits et mal entretenus. L'autoroute 35 qui traverse la ville est déjà un obstacle majeur pour les piétons et les cyclistes, et les deux viaducs qui l'enjambent sont dépourvus de trottoirs, tout comme de nombreuses artères, ce qui a vite fait de lui enlever l'envie de se déplacer à pied ou à vélo dans sa ville. « C'est trop dangereux, » dit-elle. « Je l'ai fait quelques fois, mais ça me décourage. J'ai arrêté de marcher. Il faut que je prenne mon auto pour aller marcher. » C'était « Le danger mortel des routes sans trottoir », un texte de Jeanne Corriveau, paru le 13 mars 2025 dans Le Devoir.
Roger Hitchcock, intronisé à l'Ordre du Mérite militaire, un texte de Denis Laure, paru le 29 mars 2025 dans L'Aquilon. Membre du premier groupe de patrouille des Rangers canadiens, basé à Yellowknife, le Ranger Roger Hitchcock a été investi le 21 mars de l'Ordre du Mérite militaire par la gouverneure générale du Canada, en compagnie de 61 autres membres des forces armées accueillis à Rideau Hall. L'Ordre du Mérite militaire reconnaît les services exceptionnels des membres des forces armées canadiennes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont fait preuve d'un dévouement et d'une assiduité allant bien au-delà de ce que le devoir leur commandait. Originaire de Kugluktuk, au Nunavut, M. Hitchcock avait précédemment reçu la médaille du Jubilé de diamant de la reine Élisabeth II en 2012. Il est le cofondateur de l'équipe de recherche et de sauvetage de Kugluktuk, auxiliaire de la garde côtière. Également sculpteur, Roger Hitchcock a travaillé à la mine Diavik de 2002 à 2015. Prenant prétexte de l'actuelle période électorale, où ils limitent leur communication publique et leur engagement auprès des médias, le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes n'ont pas permis de faire une entrevue avec M. Hitchcock. Roger Hitchcock, qui a servi comme sergent des Rangers, commandant la patrouille de Kugluktuk durant plusieurs années, est un membre dévoué de la communauté qui incarne tout ce qui fait la grandeur de l'organisation des Rangers, commente le professeur Whitney Lackenbauer, lieutenant-colonel honoraire du premier groupe de patrouille des Rangers canadiens. Son leadership tranquille mais fort, sa connaissance profonde et intime de sa patrie et son engagement à garder sa communauté en sécurité à travers plusieurs activités bénévoles sont un modèle de service. Il est un mentor généreux, un merveilleux conteur et un aîné hautement respecté qui personnifie le respect, la confiance et l'humilité dans tout ce qu'il fait. C'était Roger Hitchcock, intronisé à l'Ordre du Mérite militaire, un texte de Denis Laure, paru le 29 mars 2025 dans L'Aquilon.
Mode survie. Un texte d'Émilie Nicolas, paru le 3 avril 2025 dans Le Devoir. Il y a cette formule, maintes fois répétée parmi des organisateurs démocrates du camp plus progressiste, qui me revient en tête cette semaine. Ne votez pas pour la personne que vous aimez, mais pour vos conditions de résistance. Il faut comprendre que Kamala Harris, qui a mené une campagne très centriste en 2024 et qui a continué à appuyer les bombardements sur Gaza, n'inspirait pas la gauche américaine. Même qu'une bonne partie de cette gauche a choisi de s'abstenir le 5 novembre 2024, ce qui explique en partie la victoire de Donald Trump dans le vote populaire. En tentant de convaincre les gens, en gros, de se pincer le nez et de voter pour leurs conditions de résistance, on cherchait à se faire réaliste. Peu importe qui allait remporter la présidentielle, d'un point de vue réellement progressiste, il allait falloir lutter avec la Maison-Blanche. Ce qu'on avançait, c'est qu'il était préférable de lutter sans avoir le sentiment d'être soi-même au milieu des flammes. Les appels au barrage républicain lors des législatives françaises de l'été dernier mobilisait une logique similaire. Pour empêcher Marine Le Pen et l'extrême droite du Rassemblement national de passer, on a cherché à susciter des comportements électoraux basés sur une réflexion qui allait au-delà de la préférence de cœur pour une candidature. De vastes mobilisations contre l'extrême droite ont aussi joué dans les élections allemandes de février 2025. Dans ces trois cas, avec des taux de succès variables, une partie du comportement électoral des populations a été guidée par la peur, certes, mais pas par la peur de l'autre ou la peur d'une éventualité lointaine. Plutôt, le type de peur que l'on appelle communément instinct de survie. On a cherché, au fond, non pas à inspirer, mais à sauver les meubles. Remarquez, je ne cherche pas ici à encenser ou à critiquer les limites du phénomène. Je cherche plutôt à le comprendre. Visiblement, les Canadiens rejoignent maintenant les Américains, les Français et les Allemands parmi les peuples qui ont, dans la dernière année, appréhendé les options politiques qu'on leur présente à partir de leur instinct de survie. Je ne vois pas comment analyser autrement l'effondrement des appuis néo-démocrates, alors que les libéraux se repositionnent vers la droite ou les difficultés du Bloc québécois devant un leader libéral dont le français reste parfois laborieux. Il ne s'agit pas ici d'un amour particulier pour Mark Carney, mais d'un mouvement ABC, Anything But Conservative, n'importe qui sauf les conservateurs, qui n'a pas de leader, pas d'organisation, qui ne dit pas son nom, mais qui semble d'une efficacité historique pour centraliser les intentions de vote. J'allais dire progressiste, mais entendons-nous pour non-conservatrice au pays. Même lorsque Poilievre ne parle pas de Trump et se drape du drapeau canadien, certains des thèmes que les conservateurs choisissent d'évoquer, du fentanyl au woke en passant par le « il n'y a que deux genres », rappellent nécessairement les discours de Trump. Et si ce ne sont pas les thèmes, alors il y a la manière hyper-partisane, abrasive envers les adversaires ou encore contrôlante envers les journalistes, qui évoque nécessairement Donald Trump pour une partie de l'électorat canadien. Une partie de la peur populaire de Trump se déploie en peur d'un gouvernement de Pierre Poilievre. Le mouvement ABC se nourrit d'une inquiétude plus existentielle qu'à l'habitude. Ce qu'il faut comprendre du mode de survie, c'est qu'il permet de survivre. Un modèle classique en psychologie, qui a ses limites comme tous les modèles, est celui de la pyramide des besoins de Maslow. Tout à la base de la pyramide, il y a les besoins physiologiques, faim, soif, sommeil, puis ceux de sécurité, l'accès à un environnement stable et prévisible, sans crise à appréhender. Ensuite, vient l'appartenance, le sentiment de faire partie d'un groupe, l'estime de soi, la confiance, le respect, la reconnaissance et l'auto-actualisation, l'accès à la liberté et à l'espace créatif pour devenir la meilleure version de soi-même. Sans établir un lien trop direct entre les besoins individuels et les dynamiques sociétales, on peut constater qu'un électorat qui opte pour la survie aura tendance à agir en fonction de ses besoins de base, le coût de l'épicerie, la capacité à se loger, et de son besoin de sécurité et de stabilité malgré la multiplication des crises. Lorsque Jack Mitzing interpelle les électeurs progressistes en fonction de leurs valeurs communes, ou qu'Yves François Blanchet parle du refus de Mark Carney de participer au face-à-face de TVA comme d'un manque de respect envers les Québécois, ils font appel à des notions qui se trouvent plus loin dans la liste de priorités des gens. Certainement trop loin pour des gens qui cherchent à survivre. Même les questionnements éthiques soulevés par certains éléments de la carrière de Mark Carney dans le milieu des affaires n'arrivent pas vraiment à retenir de manière significative l'attention des gens. Donald Trump veut détruire l'économie canadienne, la déstabilisation géopolitique s'accélère. Une bonne partie de la population n'a pas accès à l'espace mental dont elle dispose habituellement pour ce genre d'actualité. Autant s'aligner sur la survie permet parfois une forme de recentrage sur ce qui est le plus important dans nos vies et nous permet d'apprécier sous un œil nouveau une partie de notre quotidien que l'on tenait pour acquise. Autant cette stratégie annonce déjà une forme de rétrécissement de l'espace de délibération démocratique. Personne n'est au mieux avec la stratégie de la survie. Il n'est pas question d'épanouissement, mais de faire des choix pour éviter le pire. Les critiques inefficaces, ou plutôt l'absence d'espace cognitif pour les critiques envers Mark Carney, m'apparaissent comme un symptôme d'un Canada qui s'en remet à son instinct de survie. Si le pire est évité, j'espère qu'on retrouvera la capacité à aspirer au meilleur. Après avoir choisi ces conditions de résistance, il faut, après tout, ne pas oublier de résister. C'était Mode survie, un texte d'Émilie Nicolas, paru le 3 avril 2025 dans Le Devoir.
La francophonie et l'appui aux langues autochtones, une chronique de Jérôme Melançon, parue le 20 mars 2025 dans l'Aurore boréale. En ce mois de la francophonie, le pays est appelé à souligner la place du français et des francophones. Cette célébration doit toutefois être liée à un soutien aux peuples autochtones pour ne pas oublier que la présence continue du français au Canada est attribuable en partie à la destruction des langues autochtones. L'effet des politiques d'éducation. Pendant 160 ans, le gouvernement canadien et plusieurs églises chrétiennes ont mené un projet d'assimilation culturelle et linguistique à l'endroit des peuples autochtones. Ils ont forcé environ 150 000 enfants à vivre, étudier et travailler en anglais ou en français. Des conditions similaires existaient dans les externats ou écoles de jour, où régnaient les mêmes enseignements racistes et dégradants et les mêmes interdictions de parler les langues autochtones. Hors du Québec, là où des francophones géraient les écoles ou enseignaient aux enfants en anglais, les adultes pouvaient parler français et continuer de vivre en français. Une énorme masse de documents atteste que les catholiques francophones travaillaient la plupart du temps en français. Les enfants les entendaient donc se parler en français et pouvaient apprendre quelques mots de la langue, surtout ceux qui les dénigraient. On m'a ainsi souvent parlé de l'impact négatif du mot « sauvage ». Au-delà des pensionnats, les autorités politiques, religieuses et sociales ont également mené une attaque en règle contre les langues et les cultures autochtones. Les économies autochtones ont été décimées, notamment par l'occupation et l'exploitation des terres par les Européens, par la mise en place du système de laissez-passer et par la pratique systématique de destruction des efforts de développement économique au niveau communautaire, sans oublier les épidémies. Pour avoir la possibilité de participer à la société dominante, là où il n'y avait pas de pensionnat ou d'externat, les enfants autochtones devaient aller à l'école hors des réserves. Il leur était donc impossible de recevoir une éducation dans leur langue qui serait reconnue par la société dominante. Cette possibilité est en fait très récente. Assimilation et génocide. Cela dit, le terme « assimilation » ne suffit pas pour parler de ces politiques d'éducation. Il serait trop facile de mettre côte à côte les politiques à l'endroit des peuples autochtones et celles à l'endroit des communautés issues de l'immigration européenne, canadienne française, française, belge, certes, mais également d'Europe centrale et de l'Est, visées par la même politique d'éducation en anglais. Il est question ici de génocide. La Commission de vérité et réconciliation du Canada a parlé de génocide culturel pour nommer la logique des pensionnats et leurs conséquences sur les peuples autochtones. Toutefois, nous devons voir les pensionnats comme une seule institution aux côtés des autres. Les externats, les écoles mixtes, le système de laissez-passer, la loi sur les Indiens, l'interdiction des pratiques spirituelles et culturelles, la destruction des économies, l'emprisonnement et la criminalisation, les déplacements forcés. Langues officielles et langues autochtones. L'assimilation linguistique est ainsi l'une des composantes du génocide des peuples autochtones qui continue aujourd'hui bien au-delà de la culture. Les langues autochtones ne sont pas en danger. Elles ne disparaissent pas. Elles ont été longtemps attaquées directement, suivant l'objectif de les faire disparaître avec les peuples autochtones. Aujourd'hui, le manque d'un appui sérieux à leur développement limite les moyens pour contrer leur destruction et solidifier leur transmission. Un déséquilibre important existe entre l'appui aux Français en situation minoritaire et l'appui aux langues autochtones. Si les sommes d'argent peuvent paraître comparables, il faut se rappeler que le soutien à l'éducation en français s'ajoute aux budgets provinciaux, tandis que le gouvernement fédéral finance entièrement les écoles dans les réserves. plus grave encore. Ces écoles sont sous-financées et plusieurs ont besoin de rénovations importantes. Et les gouvernements dépensent moins pour les enfants autochtones que pour les enfants qui vivent hors des réserves. Solidarité et politique linguistique. Nous avons certes appris à reconnaître la présence et l'apport millénaire des peuples autochtones sur le continent nord-américain. Après tout, les langues autochtones font partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, mais surtout des peuples autochtones eux-mêmes. Par la manière dont elles nomment, décrivent et présentent l'environnement non humain, elles permettent de sortir des relations coloniales avec les territoires occupés par le Canada. Toutefois, entre une reconnaissance, un rappel symbolique et un appui, voire une véritable solidarité, assez de pas ont été faits. Il est plutôt temps de se mettre en marche et de commencer le travail. Un véritable soutien aux langues autochtones commence évidemment par la création de relations, de liens plus serrés et de solidarité entre les groupes minorisés au niveau linguistique. Ce soutien doit servir les objectifs déjà décidés et partagés par les peuples autochtones et avoir lieu dans le respect de leur souveraineté en tant que peuple. Après tout, de nombreuses initiatives existent déjà. Rassemblement de gardiens et gardiennes des langues, forums en milieu urbain, sommets internationaux, écoles d'immersion et même projets de revitalisation au niveau des communautés, dont les programmes de mentorat, ainsi que la décennie internationale des langues autochtones. Ainsi, la création de politiques linguistiques communautaires qui inclut explicitement une solidarité avec les peuples autochtones du territoire de chaque communauté francophone permettrait de contribuer à la défense des droits des peuples autochtones, qui inclut les droits linguistiques. Aussi, d'envisager ce que pourraient signifier des réparations de la part des francophones. Bref, nous devons repenser les langues officielles. Celles-ci ont été et demeurent des langues de colonisation. Les penser en isolement des langues autochtones, c'est continuer les aspects linguistiques du colonialisme. C'était « La francophonie et l'appui aux langues autochtones », une chronique de Jérôme Mélenchon, parue le 20 mars 2025 dans l'Aurore boréale.